Voilà, bonsoir à tous et toutes. Nous écoutons la parole du Seigneur. Une des paroles les plus interpellantes par les impératifs avec lesquels Jésus parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ses disciples s'approchèrent, Jésus s'assit et dit « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, Seigneur, tu viens nous interpeller dans nos soucis quotidiens et nos inquiétudes. Et tu nous promets que nous pouvons vivre avec une confiance totale dans le Père. Tu connais aussi notre manque de foi dans cette providence du Père. Viens par ta naissance illuminer notre cœur. Viens par ta pauvreté dans la crèche nous rendre pleinement la confiance dans le Père. Nous te confions toutes les situations de détresse qui nous sont confiées, que nous connaissons. Viens toi-même mettre ta lumière, cette lumière de la confiance dans le Père, en toutes ces situations, et que nous ne doutions pas de son amour. Amen. Voilà, nous avons commencé la semaine passée la morale du Nouveau Testament. Après les vacances de Noël, il restera deux leçons, donc sur la morale chez Saint Jean et le rapport à la loi chez Saint Paul. En attendant, nous avons la chance d'être avec le Seigneur sur la montagne pour écouter ce qu'il nous apporte. Et comme je vous l'ai dit, la première chose qu'il apporte, c'est lui-même. La grande nouveauté du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, ce n'est pas d'abord que les commandements sont plus exigeants, plus intérieurs, c'est que Jésus est venu. Il a voulu connaître ce que connaît notre humanité. Et chaque année, à l'approche de Noël, les mauvaises nouvelles dans les journaux me font prendre conscience encore plus du courage qu'il a fallu au Fils de Dieu, pour venir prendre chair dans notre monde tel qu'il est, avec des Peshawar et d'autres massacres et tant de misère. Qui d'entre nous aurait choisi purement et simplement de venir ce monde en connaissant cela? Donc si nous sommes au monde, c'est parce qu'il y a eu assez de bonté pour que nous y soyons, et assez de bonté qui nous a accompagnés pour que nous y grandissions. Mais pour choisir d'y vivre et d'y rester, parfois il faut regarder cette humilité de Dieu, l'humilité du Fils, qui vient vivre la confiance dans le Père, qui est décrite ici avec beaucoup de radicalité. Donc dans une vie humaine, voilà, à la surface de la terre telle qu'elle est. Et on peut se laisser émerveiller quand même de la passion avec laquelle Jésus a voulu nous rejoindre et n'a pas eu peur de le faire. Alors la présence de Jésus donc apportait au niveau de la morale deux gros changements, enfin dans les deux changements que j'ai résumés dans les verbes accomplir et surabonder. Accomplir parce que c'est avec Jésus qu'on voit où Dieu voulait en venir avec son alliance avec le peuple, avec le don de la loi à Moïse, avec le rappel par les prophètes. Il voulait en venir à cette communion où vraiment l'homme peut être divinisé. Donc en prenant notre humanité, ce n'est pas seulement le Verbe de Dieu qui s'enrichit, entre guillemets, ou qui s'appauvrit de notre humanité, c'est comme on voudra, mais c'est aussi quand même toute l'humanité qui est tout à coup entraînée dans la Trinité, puisque le Christ est notre tête, tout son corps est pris dans la Trinité. Il n'y a plus de vie humaine concevable en dehors de la relation entre le Père et le Fils. Donc, ce que nous vivons ici ce soir n'apparaît peut-être pas extraordinaire, mais ça l'est. Ça l'est parce que Dieu nous transforme en lui, et sans nous faire perdre notre propre identité. Donc être divinisé, ce n'est pas être transformé comme on prendrait de la farine pour en faire du pain. L'humanité reste l'humanité, et pourtant elle est de plus en plus, pour employer un mot du père Théard de Chardin, amorisée. Nous sommes capables d'être vraiment l'expression et la réalité de l'amour sur la terre depuis l'incarnation du Verbe, qui alors évidemment reflue sur le passé de l'humanité. Donc accomplir, on voit où Dieu voulait en venir, et toujours où il veut en venir quand nous sommes confrontés à la loi et que nous la comprenons encore sur le mode ancien. Et surabonder, j'y reviendrai encore, c'est de voir à quel point, avec le Christ, avec sa présence, l'amour doit déborder des cœurs et atteindre ceux auxquels on n'aurait pas pensé, notamment nos ennemis, quoi. Ceux que nous n'aimons pas spontanément. Et je crois l'avoir dit, donc si nous pouvions accueillir cette grâce de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés depuis Adam, eh bien, nous nous réjouirions de l'existence de tous les hommes et de toutes les femmes qui nous ont précédés. Si nous ne nous en réjouissons pas, c'est parce qu'au fond, nous leur en voulons encore un peu du mal qu'ils ont fait dans l'histoire. Nous n'avons pas entièrement pardonné. Donc voilà ce que sera l'accomplissement, quand notre cœur sera semblable au cœur de Dieu et qu'il sera capable de miséricorde envers tous, et d'abord, je le rappelle chaque fois, envers nos plus proches. Voilà. Alors, on avait vu que ça commençait par l'annonce du bonheur, un bonheur qui est plusieurs fois au futur, mais qui est essentiellement deux fois au présent, le bonheur des pauvres de cœur, le bonheur de ceux qui, comme Jésus, reçoivent leur être au quotidien de Dieu. C'était aussi dans le passage que je viens de lire, cette conviction que le Christ nous partage, que vraiment Dieu prend soin des oiseaux. Donc C'est devenu tellement inhabituel de regarder la création animale et végétale comme l'œuvre de Dieu. C'est devenu tellement habituel de la considérer plutôt comme un matériau à la disposition de l'homme que il faut se laisser surprendre par cette manière qu'a Jésus de regarder les oiseaux et ne pas trop vite dire oui, c'était possible pour une civilisation agraire. Les oiseaux sont les mêmes que du temps de Jésus, hein, et le blé pousse de la même manière qu'il y a 2000 ans, hein, qu'il y a 4000 ans. C'est le même blé que Dieu fait pousser, quoi. Mais croire que Dieu s'occupe de chacun des animaux qu'il a créés, ça, c'est une vision de foi à laquelle Jésus nous invite, hein. Il ne faut pas se forcer, mais on peut demander toujours la foi. Alors, nous avions vu que par rapport à la loi ancienne, donc Jésus radicalise les commandements en les ramenant au cœur. Donc, non seulement le meurtre est interdit, mais même la colère qui monte au cœur doit être travaillée, confiée à Dieu. L'adultère qui commence dans le regard déjà et le faux serment qui demande que toutes nos paroles soient vraies et pas seulement les paroles qui nous engagent solennellement en public. Exigence tellement radicale qu'il est de plus en plus clair que seule la première béatitude peut nous sauver. Hein, heureux les pauvres de cœur, ce sont des comportements et des renouvellements de notre intérieur qui sont à recevoir en les demandant dans la prière et en recevant aussi la façon dont ils nous sont communiqués par la vie sacramentelle. Jésus n'en parle pas évidemment dans le sermon sur la montagne parce qu'il est là lui-même. Le sacrement, la manière dont Dieu peut se rendre présent dans un monde matériel comme le nôtre, c'est d'abord Jésus lui-même. Et les sacrements continuent cette présence et cette action, mais la continuent réellement. Voilà, alors nous avions terminé le chapitre 5 avec la structure en étoile. Soyez donc vous parfaits, comme le Père de vous, le Céleste, est parfait. Et vous savez que chez Saint Luc, la même radicalité est exprimée en disant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Donc la perfection de l'amour, c'est la miséricorde. La perfection de la sainteté, ce n'est pas de pouvoir accrocher des petits badges ou des médailles disant « Je suis pur, je suis juste, etc. » La perfection de la sainteté, c'est la bonté envers ceux qui ne le méritent pas. Et comme je l'ai dit aussi, d'abord envers nous-mêmes. Donc maintenant nous arrivons au chapitre 6. Le chapitre 6 constitue le cœur du sermon sur la montagne et il représente doublement un progrès du point de vue de la morale du croyant. D'abord parce qu'il se détache des interdits et des concessions, donc du rapport au commandement du chapitre 5, pour s'intéresser aux actions bonnes. Les commandements nous prescrivaient ce que nous devons ne pas faire, ce qu'il faut au moins éviter, mais ne disaient pas ce qu'il fallait faire. Et ici, dans le chapitre 6, c'est ce qui intéresse Jésus, ce sont les actions bonnes. Donc, en contexte biblique, qu'est-ce que c'est qu'un homme juste ? C'est un homme juste et religieux, comme nous le chantons dans le Benedictus. Nous disons « pour vivre dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours ». La justice et la sainteté. Alors, le mot « justice » du texte grec, c'est « dikaios une », c'est le mot normal de la justice. Mais le mot qui a été traduit dans le cantique de Zacharie par « sainteté », c'est le mot « hosiotes », qui signifie le juste rapport religieux à Dieu. Ce n'est pas la sainteté des saints, disons, et des martyrs, comme nous l'imaginons, mais c'est simplement le rapport juste à Dieu. Donc, vivre dans la justice, pour l'homme de la Bible, c'est vivre dans la justice vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Alors, il y a trois pratiques qui sont mentionnées par Jésus, qu'il reprend à la culture religieuse de son temps, c'est l'aumône, la prière et le jeûne. Donc, je vais y revenir en avançant dans le chapitre. Donc, premier progrès, nous dépassons les commandements qui interdisent pour nous intéresser aux actions bonnes. Mais surtout, le chapitre provoque un approfondissement de la morale parce qu'il questionne sur l'intention ou la motivation de celui qui pose un acte objectivement bon. Donc, le verset 1 nous donne le principe qui sera appliqué ensuite aux trois pratiques. Je prends la traduction de la Tobe. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Le texte oppose donc clairement deux motivations. Bien agir pour être bien vu, ou bien agir parce que le Père honorera notre action. Un critère pour découvrir ce qui nous pousse à agir semble donné par là. Si personne ne le voit, est-ce que je le fais quand même? On n'est pas dans la morale de pensionnat. Hein? Si personne ne le voit, est-ce que je peux le faire? Si personne ne le voit, l'action bonne, est-ce que je la pose quand même? Si je suis sûr que personne ne le saura, est-ce que je le fais quand même? Mais il reste encore à se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que je veux le faire pour me réconforter à mes propres yeux? C'est encore aux yeux des hommes, pour attirer leur regard. C'est vis-à-vis de moi-même, c'est faire le bien en tenant un miroir dans la main gauche. Le critère proposé par Jésus est autre. Est-ce que je le fais pour la récompense qui viendra du ciel? Autrement dit, est-ce que mon agir témoigne de ma confiance dans le Père? Ce n'est pas seulement une motivation désintéressée. On peut beaucoup s'égarer en voulant poser à tout prix un acte désintéressé. C'est ce que les jésuites reprochaient au jansénisme et à Port-Royal. C'est de mettre tellement d'accent sur la motivation désintéressée qu'en fait, finalement, on risque d'être dans l'exploit. Donc, je dois faire le bien en arrivant à ce que ce soit totalement désintéressé. Ce n'est pas la confiance dans le Père qui me meut, c'est d'être encore plus brillant qu'avant, mais dans le désintéressement. Donc, or, la motivation de Jésus n'est pas une motivation de nous inviter à faire des exploits moraux, c'est une motivation relationnelle. Je fais confiance à celui pour qui j'agis. Et il y a quelque chose de douloureux dans la mise en question par Jésus de nos motivations. Parce que nous devons continuer à pratiquer les œuvres bonnes tout en voyant que nos motivations ne sont pas pures. On peut être tenté d'y échapper en cessant ces pratiques. Comme les gens qui cessent d'être polis parce qu'ils se sont rendus compte que la politesse peut cacher la vérité sur une hostilité intérieure. Un jour, on fait cette expérience quand même, on dit bonjour gentiment, on dit merci, on sourit, et en fait, dans son cœur, on dit « celui-là, je préférais ne jamais le voir ». Bon. Et en se rendant compte qu'il y a un décalage comme ça, on se dit « mais c'est de l'hypocrisie ». Et pour échapper à l'hypocrisie, on cesse d'être poli. Mais ce n'est pas un vrai progrès. C'est bien de vouloir échapper à l'hypocrisie. Mais j'ai connu une personne comme ça qui m'a dit « Je ne dis jamais merci. » J'ai admiré son courage, moi, mais je me suis demandé si j'étais appelé à faire la même chose. Donc, voilà. Mais donc, voilà, non, c'est douloureux, hein, c'est de voir le Christ nous demande de poser des actes bons et en même temps, il nous rend conscient que nos motivations ne sont pas aussi bonnes que nos actes. Or, Jésus ne rend pas l'aumône, la prière ou le jeûne facultatif. Il ne dit pas, si vous faites l'aumône, faites-le de façon à ce que personne ne le voie et que même votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Il ne dit pas, si vous jeûnez ou si vous priez. Il dit, quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous faites l'aumône. Donc, il n'abolit aucune de ces pratiques. Mais quand on met ces choses en pratique dans la proximité de Jésus, il nous fait prendre conscience qu'on peut prier sans prier, donner sans donner et jeûner sans jeûner. Pour le redire ici avec les mots du philosophe Michel Henry. C'est le Christ, par la pureté de ses motivations, manifestées dans la Passion et sur la croix, qui fait la vérité. De telle sorte que la prise de conscience de la pauvreté de mes motivations ne renvoie pas à l'indignation ou à la colère, c'est une étape aussi, d'être en colère contre soi-même en voyant qu'on est hypocrite, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce à quoi Jésus renvoie, c'est toujours à la première béatitude et à celui qui a osé la prononcer, celui qui a osé nous dire « heureux les pauvres ». Je dis qu'il a osé hein, parce qu'il sait que nous allons d'abord nous fâcher. Et donc le Christ radicalise la question de la motivation. C'est ou bien le trésor dans le ciel, ou bien le magot matériel ou affectif sur la terre. Mais c'est lui qui fait cette radicalisation. Si cette parole de jugement dernier ne se fait pas en sa présence, si on élimine par la pensée celui qui se tient entre les deux branches de l'alternative, le trésor dans le ciel ou le magot sur la terre, donc si on l'élimine, lui, entre les deux branches de l'alternative, on élimine le ciel auquel il veut donner accès. Et c'est horrible. J'avais déjà dit, la loi nouvelle peut devenir une lettre qui tue. Ne jamais oublier celui qui nous y invite, qui nous la propose, qui habite en nous. Le passage qui radicalise la question de la motivation, donc ce chapitre 6, est aussi celui qui contient les versets les plus redits et re-répété de toute la Bible, rien que sur les 20 dernières années, même si ces mots n'avaient été dits qu'une fois par semaine par le milliard de chrétiens qui les connaissent, ils auraient été dits plus de 1000 milliards de fois. Il s'agit bien sûr de Notre Père. Ça me fait penser que Jésus demande qu'on insiste dans la prière. Dieu doit vouloir ça quand même pour recevoir 1000 milliards de Notre Père. Et je ne compte pas ceux qu'ils disent tous les jours, hein. Je ne pense qu'à Notre Père par semaine, et même plusieurs fois par jour. Le Notre Père, c'est le cœur du cœur de la morale chrétienne pour ceux qui s'efforcent de bien agir. Donc, l'enseignement du Seigneur sur la montagne se continuera au chapitre 7. Le Notre Père n'est pas la fin de la morale de Jésus. Le chapitre 7 insistera sur la pratique. Et je le dis tout de suite, c'est parce qu'il y a une tentation de paresse pour ceux qui ont découvert qu'ils ont un Père qui connaît tous leurs besoins et qui a prévu dans sa sagesse tous les moyens du salut. Il faut se garder de se servir de Dieu. Mais on peut poser ici quel est le lien entre la prière et l'agir chrétien. Est-ce que prier sert à quelque chose par rapport à l'amélioration du monde, l'amélioration du comportement des hommes? Eh bien, on pourrait dire que ce qui se passe dans la prière, c'est la purification de la motivation. Donc j'introduis ici une distinction entre intention et motivation. L'intention vise la fin. Pourquoi, c'est-à-dire en vue de quoi, est-ce que je fais tel choix ou est-ce que je pose tel acte? J'étudie l'espagnol, c'est peut-être pour faire du commerce avec les Espagnols. C'est parce que je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui parle espagnol. Mais j'apprends l'espagnol en vue de quelque chose. L'intention, c'est le pourquoi. La motivation regarde l'origine. Qu'est-ce qui me meut? D'où vient l'énergie qui me permet d'accomplir l'acte ou de poser le choix que je pose? Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une interrogation biologique ou sociologique. Si je veux éliminer quelqu'un, il est bien sûr que c'est l'adrénaline et l'agressivité qui me poussent. Mais ce n'est pas un choix moral, ça. La motivation est en amont de l'acte, mais elle rejoint l'intention parce qu'elle associe aux motivations qui me poussent des raisons qui font choisir tel acte. Donc l'intention et la motivation doivent se conjoindre. Mais les motivations sont des raisons spéciales, comme si quelqu'un était interrogé sur une action bonne et qu'il répondait « Je le fais parce que mon ami me l'a demandé ». Je vous dis ça, je reprends l'exemple. Il y a des gens qui ont pardonné parce que Jésus le demande. Et en eux-mêmes, ils ne voyaient pas beaucoup d'autres raisons ni motivations. Mais pourquoi le fait-il ? Parce que c'est son ami. La motivation, qui est ici le lien d'amitié, rejoint l'intention. Il le fait pour son ami. Mais quelle est la différence avec l'intention ? C'est que l'intention isolée peut me faire croire que ma générosité est seule à l'origine de mon acte. Je le fais pour l'autre. Merveilleux ça, non ? D'agir pour l'autre. Désintéressé. Mais quand on reconnaît que l'amitié est la motivation, il y a la reconnaissance que cet acte est porté par ce qui a construit cette amitié. Je trouve l'énergie de le faire dans un passé vécu ensemble. Ce n'est pas moi, parce que je suis généreux, qui le fais, ou pas uniquement, hein, parce que je suis généreux. Je reconnais que je suis porté. Donc, le geste est porté par tous les autres gestes de confiance et de bonté qui ont été posés de part et d'autre dans une amitié. L'amitié entraîne certainement des obligations. On le fait pour son ami, et l'ami important de l'Évangile le sait bien. Mais pour reprendre les termes de l'Ancien Testament, l'amitié a un prologue historique. On a des obligations, le contrat, le traité d'alliance, mais il y a un prologue historique. Le mot « obligation » dans l'amitié est proche de son sens ancien en français quand on dit « je suis votre obligé ». C'est-à-dire, j'ai une dette de gratitude envers vous. Vous savez bien que, enfin, ceux qui connaissent le portugais savent que justement, merci en portugais se dit obrigado. Je suis votre obligé. J'ai une dette de gratitude envers vous. Par la prière du Notre Père, outre le point le plus fondamental qui est de confesser ce que nous sommes dans le Christ, des enfants de Dieu, ceux qui veulent agir en chrétien demandent de recevoir de Dieu leur agir. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, c'est une demande que nous adressons à Dieu pour qu'il nous donne d'agir conformément à l'amitié qui nous lie à lui. Il s'agit bien par notre agir de glorifier Dieu, hein, ce qui avait été dit, pour qu'en voyant vos bonnes œuvres, les hommes rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Et cependant, cette sanctification de son nom, cette venue du règne et cet accomplissement de sa volonté que mon action doit contribuer à réaliser, c'est de lui que je les attends. C'est pour ça que les demandes de notre Père sont au passif. Dans la Bible, dans la plupart des cas, pas totalement, mais le passif signifie une action de Dieu. Ici, une action conjointe de Dieu et de nous. Il aurait pu nous faire demander que nous accomplissions ta volonté, que nous fassions venir ton règne, que nous glorifions ton nom. Il ne l'a pas dit comme ça. Il a fait mettre tous ces verbes au passif pour bien savoir que l'acteur Dieu est essentiel, même si c'est une prière où nous demandons que notre agir soit ce qui glorifie Dieu. Donc le Notre Père est la prière d'un pauvre qui a besoin de demander autant que d'un généreux qui s'offre pour la promotion de la justice et de la sainteté. Beau programme. Le Notre Père est en même temps la prière des gens qui échouent sur le chemin de la justice et de la sainteté, puisqu'à chaque fois ils redemandent « Pardonne-nous nos offenses ». Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Saint Augustin fait remarquer que c'est la seule phrase où se manifeste explicitement que l'alliance est le lieu de prestation réciproque. Dans le reste de notre Père, nous ne nous engageons à rien, si on peut dire. Pas explicitement en tout cas. Tandis que quand nous disons « comme nous pardonnons », ça donne une importance assez colossale, non, à notre pardon. Donc, on a comme à la fin des traités d'alliance une espèce de bénédiction conditionnelle. La bénédiction, c'est merveilleux, pardonne-nous nos offenses, Dieu nous rend l'innocence. Ça vaut la peine de le méditer, parce que nous avons conscience, surtout quand on est adulte, et plus on vieillit, que nous restons pécheurs, hein, que notre ajustement à Dieu est toujours à refaire. Et pourtant, il nous rend l'innocence. Mais cette bénédiction est comme conditionnelle, puisqu'il y a « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Alors, la miséricorde est le fondement le plus profond de la morale. Si Dieu ne nous rendait pas l'innocence, il ne nous rendrait pas capables de faire le bien. Le bien doit venir d'une innocence en nous. L'action bonne ne peut venir que d'un cœur bon. Et Dieu rend notre cœur bon. Il lui rend son innocence. Peut-être qu'il y a des zones, certainement qu'il y a des zones où cette innocence n'a pas encore pénétré. Mais la vérité, c'est que le cœur qui est touché par la présence de l'Esprit Saint, les zones conquises par l'innocence et le bien grandissent et croissent. Alors, il n'y a qu'une chose qui soit impardonnable, c'est le refus de la miséricorde. Je dis le refus obstiné de la miséricorde, pas des échecs, même récurrents, sur le chemin du pardon. Mais la miséricorde est comme l'amour, un flux. On ne la reçoit pas si on ne la donne pas, et on ne la donne pas si on ne la reçoit pas. Pour pardonner à nos proches qui nous ont offensés, nous avons besoin d'un lieu, que ce soit le Kyrie au début de la messe, ou le sacrement de réconciliation, ou d'autres célébrations pénitentielles, où nous recevons cette miséricorde de Dieu. Donc, je pourrais reprendre ici l'image de la différence entre le lac de Tibériade et la mer morte. La mer morte, il n'y a plus rien qui peut y vivre. Pourquoi? Parce qu'elle est un cul-de-sac. Le Jourdain se jette dedans. Et ça ne va pas au-delà. Tandis que le lac de Tibériade, il accueille le Jourdain en amont et il rend le Jourdain en aval, vers la mer morte, vers l'irrigation, etc. Donc c'est le lac qui reçoit et qui donne, qui est le lac vivant. Et c'est une belle image de ce qu'est la miséricorde. C'est en la recevant et en la donnant qu'elle engendre la vie. Voilà. Alors, puisque nous avons cette prière « Pardonne-nous nos offenses », nous pourrions dire avec saint Augustin « Quelle chance nous avons d'être des pécheurs !» Felix culpa. Nous avons un Dieu qui est plus grand que nos péchés et nous pouvons nous adresser à lui. Et il vaut mieux connaître Dieu dans sa miséricorde que ne pas le connaître parce qu'on se croit bon. Voilà. Alors, par la suite, donc, Jésus insiste sur le fait que le Père sait ce dont nous avons besoin. Donc, il le dit une première fois en Matthieu 6,8 et une deuxième fois, vous l'avez entendu, en Matthieu 6,32. Alors, pour vous détendre un petit peu ici, donc, il y avait un père jésuite qui donnait des retraites de classe et dont le verset préféré dans l'Évangile était ce passage, Matthieu 6, 25, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, etc. Hein, parce que le Père s'occupe de vous. » Et donc, dans toutes ses retraites, dans ses homélies, Matthieu 6, 25 revenait tout le temps. Matthieu 6, 25, c'était devenu, comme on connaissait maintenant avec le GSM, c'est fini, mais le numéro de téléphone d'un ami, on voit le numéro, on pense à lui, quoi. Bon, Matthieu 6, 25, c'était, voilà, le résumé de l'évangile, la confiance dans la providence, etc. Et à la fin d'une retraite, le professeur titulaire de la classe qui avait reçu la retraite de ce père va trouver la sœur responsable de l'économat de la maison qui les accueillait. Et la sœur avait entendu aussi parler de ce Matthieu 6, 25, enfin, qui revenait tout le temps là. Et alors, l'argent amené par le professeur là, ne correspondait pas tout à fait à la demande de la sœur pour le logement, mais elle dit, bah, vous savez, ça n'a pas d'importance, quoi, hein, Matthieu 6, 25. Et le professeur dit, mais non, Matthieu 5, 26. Donc, non, dit la sœur, ça doit être 6, 25. 5, 26, dit le professeur, je suis à peu près sûr, 5, 26. Eh bien, allons voir, dit la sœur. 5, 26. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Oui, Dieu a de l'humour quand même. Voilà, donc, n'oubliez pas Matthieu 6, 25. 6, 32. Le Père sait ce dont nous avons besoin. Alors, quand Jésus dit cela, il le sait aussi pour notre agir juste. Si nous n'arrivons pas à pardonner, nous n'arrivons pas à être honnêtes comme nous voudrions l'être, nous n'arrivons pas à éviter tous les mensonges que nous voudrions éviter. Le Père sait l'aide dont nous avons besoin pour y arriver. Nous pouvons lui faire confiance. Donc, quand nous le prions, nous ne le prions pas pour le lui rappeler, mais pour nous laisser transformer par notre demande même et par la relation que cette demande fait vivre. Je crois que je vous ai dit, une personne qui donnait des retraites, là, qui a avoué humblement qu'elle a prié pendant 7 ans le pardon à son père. « Mets dans mon cœur un pardon à papa. » 7 ans. Son père était un peu volage, ça l'avait fort blessé, elle dans son amour pour sa mère, qui était un peu méprisée par cette conduite de son père. Mais elle l'a reçu. Mais vous savez, quand on a prié pendant 7 ans pour une grâce, il y a une chose qui est certaine, c'est que la relation entre le Père et nous, elle a vachement grandi, quoi. Plus que si ça avait été accordé après 15 jours, hein. Il faut le dire aussi. Donc c'est pas pour ça que le Seigneur ne donne pas ses grâces rapidement, c'est parce que nous sommes des durs à cuire, et avant que le chapon ne soit cuit, il faut longtemps, il faut beaucoup d'eau. Mais le Seigneur le fait. Et donc, c'est là que la prière nous change, nous transforme. Hein. C'est parce que nous demandons les grâces dont nous avons besoin pour être les chrétiens que nous devrions être. Dans la mesure où par la prière nous nous ouvrons à Dieu, nous permettons à Dieu de nous transformer. Et par là, de transformer ce qui se passe à la surface de la terre. Alors, à la fin de notre Père, la demande est « Délivre-nous du mal ». La Tobe a traduit « Délivre-nous du tentateur » ou, dans d'autres traductions, « du mal » avec un M majuscule. Il me semble qu'on peut mettre cette demande en lien avec la fin du chapitre qui traite de l'argent et du souci inquiet. Alors, quand le Seigneur dit « Ne vous inquiétez pas », ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de soucis, ne devons pas avoir de soucis du tout. Hein. Saint Thomas d'Aquin, mais d'autres avant lui ont dû découvrir ça, clarifie que le Seigneur ne réprouve pas le souci au sens de la sollicitude, qui consiste à chercher les moyens pour subvenir aux besoins de ceux que la vie nous confie, et à mettre ses moyens en œuvre. Cette sollicitude est manifestation de la providence de Dieu, mais elle peut tourner en inquiétude, en agitation ou en angoisse paralysante. Et le désir de repousser ces épreuves, l'agitation ou l'angoisse ou l'inquiétude, peut amener à mettre sa confiance dans une autre instance que Dieu pour faire le lien entre le présent et l'avenir. C'est de là que vient la passion de gagner ou de garder de l'argent. C'est faire le lien entre le présent et l'avenir sans devoir faire confiance. Et il faut reconnaître que nous devons vraiment demander d'être libérés, hein, de l'excès d'attachement à la confiance dans l'argent pour l'avenir. D'abord, ça gâche notre relation à Dieu, mais aussi, hein, toutes les ressources qui sont immobilisées et qui pourraient servir à d'autres, quoi. Et tout cet argent qu'on place pour qu'il donne plus d'argent au lieu de le placer dans des œuvres sociales, dans des entreprises éthiques. Hein. Tous ces milliards, quand on voit les chiffres dans les journaux, on se dit, mais si tout ça était libéré, quoi, pour creuser des puits ou guérir des maladies, mais voilà, notre peur de l'avenir risque, hein, de nous faire accumuler des biens. Bon, pas seulement des biens matériels, hein, donc. Chez les religieux, on est moins menacé, mais ça peut être les biens intellectuels aussi. Donc, hein, il y a à se garder de l'accumulation qui remplace la confiance. Ce qui ne veut pas dire être imprévoyant. Hein, je dis, la sollicitude pour un père de famille, c'est aussi de prévoir et d'avoir des réserves raisonnables. Mais on voit bien qu'à un moment, le raisonnable, on l'oublie, et c'est la passion qui meut, la passion ou la peur de l'avenir. Alors nous voyons ici la même radicalité qu'au début. Ou bien le disciple agit pour être bien vu, ou bien il agit parce que le Père lui donne le ciel en récompense. Ici, c'est ou bien Dieu qui règne sur la terre, est-ce que je crois que l'histoire des hommes est dans les mains de Dieu? Est-ce que j'en ai fait l'expérience moi-même, au moins pour une partie, pour avoir cette confiance pour l'humanité dans son ensemble? Ou bien est-ce que c'est l'argent qui domine le monde? Nous devons parfois vérifier, hein, ce que nous croyons. Parce que les journaux, si vous voulez, nous trompent tout le temps. Il y a peu de journaux qui disent aujourd'hui, 99,2% des pères de famille ont travaillé pour nourrir leur famille. C'est ça la réalité quotidienne. Combien de mamans ont fait des efforts inouïs pour nourrir leurs enfants, pour se lever la nuit, pour les soigner, pour aller chercher de l'eau à 12 km parfois. Bon, c'est ça la réalité quotidienne. Hein. C'est qu'il y a plein d'amour dans le monde. Mais si on disait ça dans les journaux, vous achèteriez les journaux? Donc vous achetez les journaux parce qu'ils vous parlent de ce qui est mal et rare. Ça n'empêche pas qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour ce qui est dit, hein, des situations cruelles qui sont dénoncées par les journaux. Mais ça pourrait nous faire croire à certains moments qu'il n'y a que la violence et l'argent qui dominent l'histoire des hommes, quoi. Voilà. Et si nous ne prions pas, je ne crois pas que nous puissions croire que Dieu a l'histoire des hommes dans ses mains. Voilà, le vrai choix devient donc suivre Jésus dans la pauvreté. Donc ce n'est pas seulement se débarrasser de l'inquiétude, suivre Jésus dans la pauvreté, dans la dépendance de la providence. Et l'inconnu de l'avenir, hein, mais on y suit Jésus, ou bien, eh bien, ou bien rien. Un Ricard sinon rien. C'est Jésus sinon rien, quoi. Ne mettez pas d'alternative à ce choix-là. Le choix est radical, mais le chemin est progressif. Jésus dit, cherchez d'abord le règne de Dieu. Il ne dit pas qu'il faut y être arrivé. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice à lui. D'abord, en grec, c'est proton. Pour les gens qui utilisaient les cartes proton, eh bien, rappelez-vous que proton, ça veut dire proton d'abord. D'abord le règne de Dieu, même si je viens chercher de l'argent dans un automatique. Voilà. Donc, ce d'abord signifie que parmi les motivations bancales ou multiples qui nous poussent, Nous avons sans cesse à redresser la barre avec l'aide de la prière, la nôtre et celle des autres. Il ne s'agit pas d'accepter la compromission en disant « Mes motivations sont toujours mêlées, je ne suis qu'un pauvre pécheur. » Non, non. Il s'agit d'accepter qu'il nous est donné peu à peu d'en sortir, avec son aide. Il nous est donné peu à peu de préférer Dieu, son règne et ses trésors à tout le reste, que nous devons rejeter quand il nous le demande. Je dis bien quand il nous le demande, pas s'il nous le demande. Voilà. Donc la relation à Dieu comme Père, qui pardonne et prend soin de nous, est plus fondamentale que le bien agir. Mais elle ne se substitue pas à l'agir bien. Donc là, la foi est première, mais elle ne se substitue pas aux bonnes œuvres. Donc ici, je contredis ce que Luther a affirmé avec tant de force, quoi, que seule la foi sauve. Ben, non. Alors, l'expression, pour moi, qui corrige... je ne sais plus, est-ce que je l'ai mis sur votre feuille, là ? La feuille de route. C'est ça, oui, c'est sur la feuille de route, la conclusion du chapitre 6. Le juste est juste dans ses œuvres, donc il n'est pas juste par ses œuvres. Ce ne sont pas par ses œuvres bonnes qu'il se justifie. Hein? Mais s'il est juste, il est juste dans des œuvres justes qui le font voir. Mais le juste vit de la foi, de la prière au Père pour qu'il lui donne d'être saint et juste. Alors j'en arrive maintenant donc au chapitre 7, que j'ai sous-titré « Choisir et mettre en pratique ». La conclusion de l'enseignement sur la montagne peut se diviser en trois parties, un avertissement, un résumé des deux chapitres précédents et un encouragement. L'avertissement, Matthieu 7, 1, c'est « Ne jugez pas ». Jésus s'adresse à des gens qui ont été instruits sur les motivations fallacieuses qui habitent le cœur de l'homme. Eh bien, le risque non seulement demeure, mais grandit, de voir comment les mauvaises motivations agissent chez les autres. La façon la plus sûre d'esquiver le besoin de conversion étant de la prescrire aux autres. L'enseignement du Seigneur est clair, si je vois une paille chez autrui, c'est qu'il y a la même en format poutre chez moi. Il ajoute, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, que j'interprète comme ceci. Si les autres sont pour vous des gens qui font des choses sales, des cochons, alors n'ouvrez pas la bouche, ne leur parlez pas du royaume de Dieu. Votre mépris les ferait fuir et rejeter vos paroles. Donc, ne jugez pas, le Christ est radical, ne nous jugeons pas nous-mêmes non plus. Donc, jugeons nos actes, mais ne nous jugeons pas nous-mêmes. Deuxièmement, le résumé des chapitres précédents. On a là comme une articulation des deux tables de la loi. Jésus dit de demander. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc, la relation à Dieu, une relation de pauvre, de celui qui pour donner a besoin de recevoir, mais en même temps, c'est ce qui permet de vivre la relation juste au prochain. Donc, puisque nous trouverons. Il s'agit d'un vrai pauvre, mais aussi d'un pauvre insistant, qui ne se lasse pas de croire, à la suite de Jésus, à la bonté du Père. Et tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Deux choses sont nouvelles, selon la Taupe, dans la reprise de cette règle à la sagesse antique. Donc, dans la sagesse antique, donc, en dehors de la tradition judéo-chrétienne, on trouve des proverbes ou des dits de sagesse. Donc dans l'hindouisme, dans le taoïsme, enfin à plusieurs endroits de la culture humaine, où il est dit de ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'autrui nous fasse. La formulation positive semble plus propre à l'évangile. Donc ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc, l'insistance sur ce qui est à faire, pas seulement ce qui est à éviter. Mais Donc, deux choses sont nouvelles selon la Taube. Jésus demande de convertir notre souci de naturel de nous-mêmes en initiative à l'égard d'autrui. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il présente cette règle comme le résumé de la morale biblique. C'est la loi et les prophètes. Voilà. Alors, dernièrement, un encouragement. Pour terminer, Jésus pousse à choisir et agir. Donc, la maison bâtie sur le roc et la maison qui s'écroule nous font bien voir qu'il faut choisir. Et effectivement, il existe une tentation pour les gens instruits du règne de Dieu et de sa providence, hein, c'est de croire que Dieu fait tout, hein, que les passifs de notre Père nous dispensent de chercher à nourrir les affamés et à donner à boire à ceux qui ont soif. La tentation d'espérer que Dieu va tout faire par les autres. Et Jésus dit que le risque de se perdre est grand, la voie est large. Se décider et agir demande un effort. Mais selon Matthieu, l'effort est moins pour passer une porte étroite que pour la trouver, parce qu'elle est petite. C'est du côté des petites actions à notre portée qu'il faut chercher d'abord. Ça, c'est une leçon de saint Ignace de Loyola, reprise par d'autres moralistes, mais pour vivre le royaume de Dieu qui va transformer toute l'histoire humaine, il faut chercher dans les petites actions à notre portée. Voilà, l'existence de deux voies, puis la nécessité de discerner aussi les vraies promesses des fausses, les vrais prophètes des faux. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. Donc, saint Ignace de Loyola nous dit que nous pouvons faire une expérience de Dieu sans douter ni pouvoir douter. C'est très fort, hein, sans douter ni pouvoir douter. Dans notre vie, je crois que tout homme, toute femme est appelé à faire cette expérience-là au moins une fois avant de mourir. Donc, si ce n'est pas encore fait, soyez plein d'espérance. Et si c'est déjà vécu, appuyez-vous sur ce que vous avez vécu pour croire que Dieu renouvelle ses dons. Donc, mais c'est très important de voir qu'il y a des expériences spirituelles authentiques où Dieu est assez fort pour montrer que c'est lui, quoi, hein, donc, pour nous instruire. Mais quand on l'a faite, des tas d'illusions sont possibles. Et ça, c'est l'expérience chrétienne, c'est que le mauvais esprit se déguise en ange de lumière, comme dit saint Paul. Hein. Il vient avec des choses qui ressemblent au royaume de Dieu, à la générosité de Jésus, etc., jusqu'à ce qu'il nous casse. Hein. Il va pousser la générosité jusqu'au moment où nous y perdons la santé. Et c'est une tentation à laquelle je ne connais pas de saint qui ait échappé, donc... Il faut passer par cet apprentissage. Mais Jésus nous rend vigilants, quoi. Tout ce qui ressemble au royaume de Dieu n'est pas immédiatement le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il faut garder un lien avec l'Église, quoi. Il faut en parler avec quelqu'un avant d'agir sous l'inspiration que l'on croit divine. Mais donc il faut apprendre à grandir dans le discernement. Et c'est moins facile que quand il y avait le bien et le mal, comme un enfant. Ce qui est interdit est mal et le reste est bien, quoi. Maintenant, c'est entre des biens. Il y a un bien qui est conforme au royaume et un bien qui peut être un piège. Il faut apprendre à avancer là-dedans. Mais, de nouveau, heureux les pauvres de cœur, la grâce du discernement, elle est donnée à ceux qui la demandent. Mais il faut la demander. Parfois la demander avec des frères et des sœurs. Mais le fait qu'il faille choisir, hein, parce que quand on a discerné, il faut encore choisir, rappelle que choisir est une opportunité qui est offerte par la présence de Jésus. Je n'arrête pas d'insister là-dessus. La vraie nouveauté, c'est qu'il y a Jésus pour vivre en homme juste et religieux. Et si ça nous semble difficile parfois de choisir, nous devons nous rappeler que s'il y a à choisir, c'est parce que Jésus nous en a ouvert la possibilité. Nous ne sommes jamais seuls devant un choix chrétien à faire. Donc l'opportunité de choisir l'enseignement de Jésus, qui réfère tout au Père, et la nécessité de mettre en pratique cet enseignement sont conjoints. Jésus semble voir que certains de ses disciples sont tentés d'identifier l'Évangile avec ce qui reste en dehors du travail quotidien ou de la vie des hommes. Nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles en ton nom. Pas très quotidien tout ça. Ben, dit Jésus, ça ne suffira pas. Tous ces dons du Père, hein, parce que prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, ce n'est quand même pas rien. Hein. Mais tous ces dons du Père ne dispensent pas de pratiquer la justice du royaume, celle que les prophètes ont rappelée et que la loi enseignait. Jésus semble voir que certains de ses auditeurs enthousiastes à l'entendre sont en train de bâtir des châteaux en Espagne, sur la plage, et il les voit s'écrouler. Par contre, il est rassurant pour ceux qui ont mis et mettent en œuvre ces exigences. Jésus voit quelque chose qui se construit et c'est sur le roc. Comme à la conclusion de l'alliance au Sinaï, la balle est dans votre camp, dit le Seigneur. Si nous voulons continuer ensemble, j'ai besoin de vous. Voilà donc comment se termine ce petit résumé, qui n'est pas le résumé total de la morale du Nouveau Testament, mais qui est quand même pas mal. Donc le chapitre 5, c'était les béatitudes et la nouvelle justice. Le chapitre 6, la fin et la source de l'action juste et sainte. Hein, le pourquoi en deux mots et le d'où me vient de pouvoir être juste et saint. Et le chapitre 7, pardon, ne jugez pas, agissez. Donc, la nouveauté, hein, c'est résumé au bas de la feuille de route, c'est le pléroun, l'accomplissement, le remplissement, qui nous dit que la présence du royaume et la loi intérieure sont là avec Jésus, mais j'ai ajouté entre parenthèses, se reçoivent progressivement. Être chrétien, c'est toujours grandir en proximité avec le Christ. Et périsseo, donc le débordement, la miséricorde, aimez vos ennemis, et c'est son ouverture à tous les hommes. Donc le père Édouard Herr, notre professeur de morale sociale ici à l'IET, insiste, beaucoup de gens aujourd'hui trouvent facile de critiquer l'Église parce qu'ils trouvent dans l'Église des limites quant à la relation homme-femme et des limites quant au respect des droits de l'homme et des choses comme ça. Mais il faut reconnaître qu'historiquement, il n'y a aucune culture au monde qui a promu la femme comme Jésus l'a fait. Dans toutes les cultures du monde, vous pouvez vérifier, l'homme est dominant, ou s'il y a eu de rares exceptions dans le genre des Amazones, c'est la femme qui domine l'homme, mais il n'y a pas égalité. C'est le christianisme qui, peu à peu, a fait valoir la dignité de la femme, la dignité de l'enfant, et surtout la dignité de tout homme. Dans toutes les cultures, c'est aimez vos proches, défendez-vous contre vos ennemis. Les ennemis n'ont pas les mêmes droits que les proches. Pour Jésus, la dignité humaine est universelle. C'est ce qui a permis la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, qui est un peu malmenée maintenant dans les nouveaux droits concrets. Mais je dis pour rappeler que ce sermon sur la montagne, avec son exigence d'universalité, a été un moteur de transformation culturelle énorme et dont nous bénéficions. Hein, parce que si nous connaissons les démocraties, c'est grâce à cette mentalité qui s'est répandue qu'il n'y a pas des gens au-dessus et des gens en dessous. Hein, tous sont égaux. Et c'est un penseur juif qui fait remarquer que les démocraties n'entrent pas en guerre les unes avec les autres. Pour qu'il y ait des guerres, il faut un puissant canalise les forces de violence d'un peuple ou d'une nation contre d'autres. Alors ça ne veut pas dire qu'en démocratie on ne doit pas se défendre contre ce genre d'homme qui apparaît dans nos histoires aussi. Mais il faut reconnaître que en promouvant l'universalité de la dignité de tous et sa forme politique qu'est la démocratie, ça contribue ou ça peut contribuer vachement fort à la paix. Voilà, tout ça dans ce petit sermon sur la montagne au bord du lac de Tibériade. Donc, je vous invite à rendre grâce à Jésus dans la crèche, hein, d'être venu pour nous apprendre tout ça et surtout le vivre avec nous. Voilà, bonne fête de Noël.